Radio Okapi.
Le journal présenté par Grace Hamzati Massandi.
Clôture hier à Kinshasa de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges au nord Kivu et à Ituri dans une ambiance mouvementée. Maintien, levée ou requalification, la dernière décision revient au président de la République. C'est aujourd'hui que le président de la République d'Angola, João Lourenço, succède à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en tant que président de la SADC. Solange Luachiga, secrétaire exécutive du caucus des femmes pour la paix au Sud Kivu, est l'invitée de ce journal. Elle parle de l'accompagnement et l'alignement des femmes sur les listes électorales par les partis politiques. Mesdames et messieurs, bonjour. La table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges s'est clôturée hier mercredi au Palais du Peuple, ici à Kinshasa, dans une ambiance mouvementée. Dans son discours à cette occasion, le Premier ministre représentant le chef de l'État se félicite des différentes propositions issues des différentes commissions pour éclairer la lanterne de Félix-Antoine Tshisekedi. Celui-ci va lever l'option soit du maintien, de la levée ou de la requalification de l'état des sièges. Par ailleurs, juste après la clôture, on a pu observer dans la salle deux tendances qui se sont dégagées. La première est celle de quelques personnes qui ont brandi des papiers sur lesquels on pouvait lire « maintien ». Cependant, une clameur exigeant la prononciation immédiate de la levée s'est fait entendre dans la salle juste après le discours du Premier ministre. On écoute le président de la commission levée de l'état des sièges sur le déroulement des travaux. Le député national Fabrice Adenonga, élu de Djouganitori, est au micro de Billy Van Lutumba.
Oui, l'analyse finale, c'est que la grande partie de participants se sont manifestés pour le lever de l'état des sièges. Il y avait trois options levées, le maintien, la requalification ainsi que la levée pure et simple de l'état des sièges. Vous devez retenir que les participants ont vidé la salle dans les deux premières thématiques pour aller venir gonfler la dernière thématique qui était levée de l'état des sièges. Nous avions commencé avec environ 80 participants pour terminer avec 196 participants, parmi lesquels 195 ont voté pour la levée d'état des sièges. Et la commission qui devait travailler sur la requalification a rejoint la position de lever de l'état de siège. Parce que là, les gens se sont prononcés contre la requalification. Au finish, donc, il y a deux options qui restent sur la table. La levée de l'état de siège qui est majoritaire, qui prend la majorité des gens, ainsi que le maintien de l'état de siège qui prend une petite minorité. Et donc, l'ambiance de la salle a déjà dessiné. Mais nous étions juste des serviteurs pour éclairer la lanterne du président de la République pour qu'il sache ce que pense la population de l'Est sur l'état des sièges. Et je pense que sa lanterne est suffisamment éclairée et nous demandons à Dieu de lui donner la sagesse nécessaire pour pouvoir donner la version finale.
L'Assemblée nationale avait déjà voté une résolution en 2021 pour demander la levée de l'état des sièges dont les conclusions n'ont jamais été mises en œuvre par le gouvernement. C'est ce qu'affirme le député national Gratien Iratian. Dans un point de presse hier à Bounia, cet élu de Bounia, membre de l'opposition, désavoue les démarches de Kinshasa de procéder aux consultations des différentes couches sociales au mépris de la loi. Pour lui, les prérogatives d'élever ou pas ces régimes spéciaux reviennent aux seuls élus du peuple. De leur côté, les acteurs politiques membres de l'Union sacrée déclarent que le chef de l'État, en tant que garant des institutions, a le droit d'écouter les uns et les autres avant de prendre une telle décision. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Le député national Gratien Iratian dit que depuis le mois de décembre 2021, l'Assemblée nationale avait voté une résolution pour solliciter la levée pure et simple de la mesure de l'état de siège. C'était quelques mois après sa promulgation, dit-il, à cause de son inefficacité par rapport aux attentes de la population. Pour lui, organiser des consultations deux ans après pour demander les avis des différentes couches de la population est un moyen de dilapider l'argent du contribuable.
On ne peut pas refuser un chef de l'État de consulter sa population, mais la base légale demandée à ce que ce soit les élites. Donc, on ne pouvait pas faire les doublages. L'argent là qu'on a pris pour aller amener tous ces gens à Kinshasa pour la consultation, nous avons nos déplacés de guerre qui n'ont rien à manger ici. C'est de l'argent perdu pour rien.
Une position non partagée par les acteurs politiques membres de l'Union sacrée. Sami Diakonga, le responsable provincial du parti politique AFDC, il estime que le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, a le droit d'écouter les avis de la population avant de lever ou non la mesure de l'état de siège.
L'ordonnance est située à l'état de siège a été signé par le chef de l'État lui-même. Pour orienter sa vision, il ne devait qu'écouter et les élus et tout le monde pour prendre de la bonne décision.
Signalons que cette table ronde à laquelle on prépare les délégués de l'Ituri et du Nord Kivu a pris fin ce mercredi à Kinshasa.
Et à Goma au Nord Kivu, des réactions ne cessent de fuser sur la tenue de cette table ronde sur l'état des sièges. Plusieurs acteurs sociopolitiques haussent la voix pour exprimer le souhait de voir cette mesure exceptionnelle être levée par le président de la République. C'est le cas de Madame Hortense Maliro, militante des droits de l'homme et de la femme en particulier. D'après elle, il est temps que les institutions puissent revenir au fonctionnement normal et en toute indépendance. L'état des sièges n'a pas atteint ses objectifs, donc il faut changer de stratégie. Hortense Kavu Maliro le dit au micro de Sifa Maguru.
Je pense que le chef de l'État peut lever cet état de siège parce que c'est nous qui sentons, c'est nous qui vivons en province du Nord Kivu, les effets que cet état de siège a causé. Parce que l'objectif, c'était qu'il puisse sécuriser la province, qui est le rétablissement de la paix. Et je pense que comme ils n'ont pas pu aboutir à les résultats, je ne vois pas en quoi on doit faire de midi à 14 heures pour comprendre que ça n'a pas marché, que cet état de siège a échoué. Je pense qu'il est temps qu'on puisse laisser les institutions travailler séparément. Et je pense que la population du Nord Kivu a été là pour accompagner les FARDC. Et donc la population sera toujours derrière la FARDC. C'est le moment d'élever tout ça. Laisser la FARDC faire son travail et qu'elle puisse quitter la politique et laisser les institutions travailler comme elles doivent travailler.
Non loin de là, dans la région de Beni, toujours au Nord Kivu, les sensibilisations des groupes armés au désarmement portent des fruits. Hier mercredi, par exemple, 12 combattants avec deux armes AK-47 ont été remis au PDDRCS pour leur désarmement et démobilisation. L'occasion pour Omar Kavota d'encourager les autres miliciens qui traînent encore de rejoindre le PDDRCS. Le responsable du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation pour la région de Beni est au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons multiplié des appels à travers des dialogues que nous avons réalisés récemment avec le concours de nos partenaires FARDC, la MONUSCO et d'autres partenaires pour encourager ceux qui traînent les pas à venir. Le centre des armements de Mambango est là pour accueillir ceux des combattants qui veulent se rendre. Donc nous voulons remercier ces compatriotes qui ont choisi de venir vers le programme en passant par le FARDC et nous disons qu'ils seront correctement pris en charge. C'est l'occasion d'appeler tous les autres qui traînent les pieds, qui hésitent, qui croient que le PDDRCS n'a pas encore commencé effectivement ce travail à venir parce que ils vont s'ajouter sur d'autres et ils sont déjà plus d'une centaine maintenant au site et nous croyons que c'est le moment pour ceux qui traînent à venir.
Je l'ai dit dans les titres, le président de la République d'Angola, João Lourenço, succède à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en tant que président de la SADC. C'est ce jeudi, au cours de la 43e réunion ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui aura lieu à Luanda, en République d'Angola. Le thème de cette 43e édition est « Le capital humain et financier, vecteur principal de l'industrialisation durable dans la région de la SADC ». D'autres détails du communiqué de la SADC publié à cette occasion avec vous, Alain Irung.
En retenant ce thème, la SADC a pour volonté de traiter deux des facteurs les plus déterminants dans la poursuite de l'industrialisation régionale, en l'occurrence les ressources humaines adéquates en termes de nombre et de compétences techniques dans le domaine du changement climatique et de la quatrième révolution industrielle et les ressources financières suffisantes afin de disposer de mécanismes de financement durables. Au sommaire de son programme, le 43e sommet de la SADC recevra le rapport du président de l'organe de coopération en matière de politique défense et sécurité. Il examinera aussi l'avancement dans la mise en œuvre des priorités du plan indicatif régional de développement stratégique 2020-2030 de la SADC et la mise en œuvre de la stratégie et de la feuille de route pour l'industrialisation 2015-2063 de la SADC et se penchera sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du thème du 42e sommet de la SADC, à savoir promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, de la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable.
Merci beaucoup à vous, Alain Rung-Mouchins, pour toutes ces précisions. Et puis, fin mardi dernier, à Lubumbashi, des assises qui ont réuni les autorités du Haut-Katanga et les camionneurs ressortissants des pays membres de la SADC et du COMESA. La question de la sécurisation de ces camionneurs, une fois sur les sols congolais, a été au centre des travaux. Ces camionneurs se disent souvent victimes d'agressions, de vols et de tracasseries de toutes sortes. Le gouverneur du Haut-Katanga adhère à leurs recommandations et certaines pistes de solutions sont trouvées. Ces camionneurs saluent l'engagement engagement et l'implication des autorités congolaises dans la recherche des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent une fois qu'ils sont sur le territoire congolais. Le récit de Jean Gandou.
Au bout de deux jours de travaux, les camionneurs ressortissants de pays membres de la SADC ont fait des recommandations pour qu'ils travaillent en toute tranquillité sur le territoire congolais. Un accent particulier a été mis sur la sécurité sous toutes ses formes. Prenant les taureaux par les cornes, les autorités congolaises ont décidé du renforcement de la sécurité, partant de Kasumbalesa jusqu'au village Mutaka, passant par les villes de Lubumbashi et de Likasi. Un numéro vert sera mis à leur disposition pour qu'en cas de besoin, ils communiquent avec les éléments de la garde républicaine qui seront présents sur cet axe pour la surveillance. Déjà, 5 véhicules ont été remis par les gouverneurs des provinces au commandant de la garde républicaine. L'objectif est, d'après Jacques Yaboula, de mettre fin notamment au vol des cathodes de cuivre et à toute forme de tracasserie. Les autorités congolaises ont aussi décidé de décongestionner la frontière de Kasumbalesa pour faciliter le trafic. D'où cette demande formulée aux responsables des services œuvrant à Kasumbalesa par le gouverneur du Haut-Katanga.
C'est ici le lieu pour moi également d'exhorter les responsables des services impliqués dans les opérations d'import-export afin qu'ils sensibilisent leurs collaborateurs à la mise sur pied des mécanismes d'assouplissement des opérations.
Notons que les consuls généraux de la Zambie, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud en poste à Lubumbashi y ont aussi pris part. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur la fréquence de la paix. Les États-Unis d'Amérique sanctionnent Cosma Wilungula Balongelwa, ancien directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Léonard Mwamba Kanda, ancien chef de département de l'autorité de gestion de la RDC pour la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages en voie d'extinction et directeur de l'ICCN, et Augustin Ngumbi Amouri, directeur coordinateur de l'autorité de gestion de la RDC pour la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages en voie d'extinction et conseiller juridique de l'ICCN. Dans un communiqué publié hier mercredi, les États-Unis désignent ces personnes citées comme étant généralement inéligibles à l'entrée aux États-Unis en raison de leur implication dans des actes de corruption importants. Babel Mpongo Masimango nous en dit plus.
Le communiqué de JSA indique qu'en tant que fonctionnaires responsables de la protection des espèces sauvages, ils ont abusé de leur poste officiel en s'impliquant dans les trafics de chimpanzés, de gorilles, d'okapis et d'autres espèces sauvages protégées de la RDC, principalement vers la République populaire de Chine, en échange de pots de vin. Leurs actions criminelles transnationales corrompues ont sapé l'état de droit et la transparence du gouvernement en RDC, ainsi que les efforts de longue date de conservation des espèces sauvages. L'action d'aujourd'hui montre que les États-Unis se tiennent aux côtés de ceux qui, en RDC, s'évertuent à perturber le trafic des espèces sauvages et à préconiser l'obligation de rendre des comptes incombant aux fonctionnaires corrompus et aux criminels transnationaux. Ces désignations réaffirment également l'engagement des États-Unis à lutter contre la corruption qui est préjudiciable à l'intérêt général, freine la prospérité économique des nations et entrave la capacité des gouvernements à répondre efficacement aux besoins de leur peuple, conclut le communiqué.
Babel Mpongo Masimango, en réaction à ce communiqué des États-Unis le sanctionnant, le professeur Cosma Wilungula, ancien directeur général de l'ICCN, rejette toutes ces allégations. Il fustige, selon lui, l'ignorance des auteurs du communiqué du système international qui régule le commerce des espèces protégées. Il ajoute ignorer le véritable mobile de ce communiqué qui est publié 2 ans après son départ à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Le professeur Cosma Wilungula dit s'étonner que les USA qui lui ont décerné le prix du département américain il y a quelques années pour la conservation puissent se contredire de cette manière. Il qualifie ces sanctions de fake news, conclut-il. Justice. Le procès de Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi, s'ouvre aujourd'hui devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. L'annonce a été faite mardi par la défense de l'opposant proche de Katumbi. La citation lui a été signifiée lundi, affirme maître Christian Koï, l'un des avocats de la défense. Les 3 préventions à charge de Salomon Idi Kalonda sont notamment trahison en état de guerre, incitation d'un militaire à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et atteinte au secret de la défense nationale pour s'être fait remettre un document secret. Notez par contre que tous les prévenus dans l'affaire François Béa, ancien conseiller spécial du président Tshisekedi, en matière de sécurité bénéficient de la liberté provisoire.
Actualité internationale.
L'Organisation internationale pour les migrations OIM indique ce mercredi que plus de 60 migrants partis début juillet des côtes sénégalaises à bord d'une pirogue finalement retrouvée lundi au large du Cap Vert sont présumés morts. Le nombre des personnes décédées est estimé à 63, celui des survivants étant de 38, affirme une porte-parole de l'OIM, Safa Mseli.
L'invité.
Il s'agit de Solange Luachiga, secrétaire exécutive du caucus des femmes pour la paix au Sud Kivu. Elle revient sur les constats faits au cours du caucus des femmes au Sud Kivu mardi dernier qui pense que les partis politiques ne respectent pas leurs engagements quant à l'accompagnement et l'alignement des femmes sur les listes électorales. Solange Luachiga s'entretient avec Rachel Kiesimbangu.
Madame Solange Luachiga, bonjour.
Bonjour.
Vous organisez une table ronde qui met autour de la table les fédéraux des partis politiques, mais aussi les potentielles femmes candidates. Pour quelle fin?
Nous avons eu à organiser des activités avec les responsables de partis politiques en province pour solliciter leur accompagnement dans la promotion des ambitions politiques des femmes. Lors d'un atelier, les partis politiques se sont engagés à respecter la loi électorale à son article 13 s'agissant de l'alignement des femmes sur les listes électorales qui dit que si on aligne au moins 50% de femmes, les partis politiques seront exemptés de la caution électorale. Deuxième engagement, c'était de faire participer les femmes dans les réunions stratégiques des partis politiques. Et le troisième, c'était l'accompagnement des femmes dans l'élaboration ou la préparation de leur dossier de candidature. Nous voudrions maintenant évaluer avec les parties prenantes quelle est la situation. Parce que il y a beaucoup de plaintes. On trouve déjà qu'au niveau national, 14% seulement des femmes candidates. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des partis politiques en province qui avaient pris l'engagement d'accompagner les femmes? Et donc, nous voulons nous regarder tout droit dans les yeux pour dégager les responsabilités afin de cesser de nous accuser mutuellement et surtout cesser d'accuser les femmes. On oublie que un vrai parti politique opérationnel, il est vivant avant, pendant et après les élections. Et cette période d'après les élections, ça doit aider un parti politique respectueux de se constituer des garde-fous, d'analyser, d'identifier les compétences et de faire comme un sélectionneur d'une équipe de football qui va jouer à l'international. Il regarde les compétences, il aligne les joueurs, il n'attend pas la veille du match. Actuellement, pour le provincial, zéro candidature. Le problème, c'est l'ineffectivité et les faiblesses au sein des partis politiques.
À quelques mois des élections déjà, nous sommes dans l'étape des dépôts de candidature. Alors, quel constat? Est-ce que ces engagements pris par les partis politiques l'année dernière sont-ils respectés?
Non. Ces engagements ne sont pas respectés. Parce que même pour des femmes qui se sont retrouvées sur les listes électorales au niveau provincial, elles ont fourni beaucoup de gymnastique. Et jusqu'à avoir même des informations selon lesquelles, au niveau provincial, les responsables des partis politiques auraient proposé des noms. Arrivé à Kinshasa, on chambarde tout. Et donc, il y a aussi cette question de faible communication et confiance entre les niveaux nationaux et les niveaux provinciaux. Et donc, les 14% des femmes qui se retrouvent sur les listes électorales, les efforts personnels sont à un pourcentage élevé.
Pour vous, est-il déjà tard ou y a-t-il des mécanismes qu'il faut mettre en place pour se rattraper?
Moi, je pense qu'il n'est jamais tard pour agir. Le niveau provincial, on n'a pas encore clôturé. Je demande aux responsables des partis politiques de revoir leur tir. Parce qu'il y a des femmes politiques qui sont compétentes et qui peuvent apporter des sièges. Et donc, je demande que les partis politiques soient plus stratégiques. Je pense qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Il y a lieu de rectifier et d'aligner des femmes compétentes et des hommes compétents sur les listes électorales.
En ce qui concerne les femmes de leur côté, qu'est-ce qu'elles doivent faire, les potentielles candidates?
Oui, les potentielles candidates, d'abord pour celles qui sont déjà sur les listes électorales, je leur demande de ne pas dormir. Il est temps de capitaliser toutes les contributions en termes de formation que nous leur avons données et celles qui ne sont pas encore retenues sur les listes électorales. Nous, notre rôle, c'est de hausser la voix, de mener le plaidoyer, mais la femme potentielle candidate a un rôle de se positionner stratégiquement.
Madame Lochiga, je vous remercie.
Notre invité, Solange Lwachiga, secrétaire exécutive du caucus des femmes pour la paix au Sud-Kivu, était interrogé par Rachel Kiesimbango. Et c'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Alain Rongmouchins et mis en onde par Pierre Diassinois. Vous pouvez les retrouver sur www.radiocapi.net. Merci.